7h15. Pierre-Yves, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, sur Bombardier?
J'en ai dit pas mal, mais là, c'est l'angle des constats du PDG.
OK.
Il a fait des entrevues hier, évidemment, pour expliquer son point de vue, et le sourire était là, hein? La grande liquidation se termine. Et là, quand on lui a parlé de sa rémunération, il dit « Ben moi, qu'est-ce que vous voulez? Je prends ce qu'on me donne. » « Ah ouais? Hey, si tu prends ce qu'on te donne, on va t'en donner moins, c'est pas grave. » Non, mais là, c'est clair que M. Bellemare va s'en aller. L'entreprise a tellement réduit en taille. S'il reste, c'est pour finir son plan de liquidation, peut-être même vendre peut-être, qui sait, la dernière partie, on ne sait pas. Mais clairement, que quand il dit « Je vais rester jusqu'à la fin de mon plan de redressement », c'est pas un plan de redressement, c'est un plan de liquidation. Deuxième point, il dit « On avait une charge de dette importante. On a toujours dit qu'on devrait adresser la dette en 2020. » Allô? C'est comme... Hey, je me souviens très bien, Paul. On est dans une conférence de presse. On est dans le hangar. Il y a un C-Series derrière. On est en 2016. On dit aux journalistes, on va être flux monétaire positif en 2018 pour Bombardier Inc. et 2020 pour la C-Series. Mais après 2020, il y a une grosse dette qui s'en vient, mais on la voit pas. On la regarde pas de suite. On verra ça dans le temps comme dans le temps. C'est comme une retraite d'un Québécois, tu sais. Je vais avoir derrière à 65 ans, mais je vais regarder ça à 63. C'est à peu près le parallèle que je peux te faire. Et quand on lui a parlé de ça, il a dit « Ah, tu sais, c'était pas la priorité dans le temps. J'en reviendrai pas. » En tout cas, troisième constat, Bombardier seul ne pouvait pas faire fonctionner ce programme-là. On s'en est rendu compte en 2015. Youhou! Est-ce qu'on aurait pu le dire au peuple, au gouvernement? « Hey, on a besoin d'aide pour maintenir la C-Series, mais en passant, on a besoin d'un grand joueur pour nous acheter, ben ça arrivera pas. » Ça, c'était très drôle. Quatrième point, il dit « Mais la C-Series, c'est pas une mauvaise affaire. On a quand même créé 3300 jobs après 7 milliards d'investissements. » Alors, Paul, tu connais comment je suis taquin. J'ai pris 7 milliards d'investissements.
Et t'as calculé ce que ça coûtait par emploi.
Par 3300 jobs. Okay. Ça donne combien, Paul?
Aucune idée.
2,1 millions US par job. Tant qu'à ça, prends 3300 personnes, même mieux, 6600. Donne-leur chacun 1 million placés sont retraités. Mais... Ah, excuse-moi, ça m'a fait rire un peu. Tu sais, la bonne nouvelle, c'est qu'on a sauvé des jobs, mais ils ont été tellement chers à inventer ces jobs-là que finalement, on aurait pu payer les gens à rester chez eux. Et la famille a-t-elle une responsabilité? Oh là là, on lui a demandé, la famille, est-ce qu'elle a, qui contrôle l'entreprise, a-t-elle une responsabilité? Ah, vous savez, on tourne une page, la famille avait de grands rêves audacieux. Malheureusement, on n'a pas eu les reins assez solides. Je vois pas ça comme un drame. Airbus va en faire un grand succès. C'est un peu comme si Claude Julien, on lui demande, puis penses-tu que Marc Bergevin a pris des bonnes décisions? Ben, vous savez, la famille, on n'a pas réussi, mais il y a un autre coach qui va gagner la Coupe Stanley que moi. C'est un peu ça.
Moi, tu sais que je suis très sévère à l'endroit de la direction de Bombardier, oui. Parce que je trouve que ça a coûté la totale. Je trouve qu'ils ont l'air de gens qui s'empiffrent pendant qu'on liquide. Je trouve ça honteux là, jusqu'à un certain point. Puis je pense aux employés, là. Tu dis, écoute, là, dans le fond, ils nous ont conté des histoires. La famille Beaudoin avait le contrôle. Le fils Beaudoin était le grand boss. Ils l'ont tassé parce que, visiblement, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas la compétence pour faire la job. Je nie pas, par contre, que les investissements ont permis quand même à Montréal de développer le marché de l'aéronautique. Ça, je pense, tu sais, je suis d'accord avec toi. Tu sais, ça a quand même permis. Tu sais, si t'as Airbus puis Alstom dans le décor, là, avec les, tout le volet ferroviaire, puis le maintien du dernier volet de Bombardier, qui est le jet d'affaires, bien, tu sais, c'est vrai qu'on a quand même créé des jobs, c'est vrai que ça a soutenu le marché. Ce qui est indécent, c'est qu'on a mis de l'argent sans tenir compte de, je dirais, mettre des conditions à la rémunération des propriétaires.
Et des conditions payantes aussi.
Ben oui,
parce que si tu regardes la caisse aujourd'hui, la caisse, à l'époque, je me souviens très bien d'être en conférence de presse et dire « Wow, ils ont vraiment menotté ». C'est dans le sens que tu veux me vendre mon placement, tu vas me payer. Tu veux me racheter, tu vas me payer. Tu me donnes pas le rendement que je veux, tu vas augmenter mon pourcentage. Tu sais, la caisse avait les deux mains sur
le
volant.
Tu veux le REM, va le faire, mais tu me garantis un rendement.
C'est tout le temps. C'était merveilleux.
Parle-moi donc quand même là, de ces gens qui ont une voiture, qui restent des paiements à faire et qui décident d'en acheter une nouvelle.
Ouais, ou simplement, tu sais, une ballonne en général, c'est quand la valeur de ta dette est plus grande que ta voiture. Et là, que la valeur de la voiture. Et on accuse les concessionnaires, si vous voulez, de refinancer des nouveaux achats. Simplement, comment? Ben, en prenant la dette de l'ancienne voiture et en montant la valeur du nouveau modèle pour avoir un plus gros financement. Bon. Au-delà de ça, s'il y a une ballonne sur ta voiture, là, puis que tu payes le prix, c'est-à-dire que tu vends ta voiture moins cher que la dette, mais c'est peut-être ta faute. C'est parce que tu veux une voiture neuve trop vite. Tu refinances la dette d'une ancienne voiture sur une nouvelle voiture, tu as décidé de la changer. Tu sais que la nouvelle voiture va te coûter cher, ton ancienne dette, elle disparaîtra pas, là. C'est pas une invention du Saint-Esprit. Ça arrive. Deuxième point, le financement trop long. Tu sais que ta voiture perd sur 5 ans la moitié de sa valeur. Tout le monde sait ça. C'est factuel. Quand tu prends un financement sur 6, 7, 8 ans, le client s'achète donc des voitures trop chères pour ses moyens. Au lieu de prendre le modèle plus petit, il va étirer des paiements sur un modèle plus coûteux, si tu veux, et il achète des paiements par mois, donc il fabrique la balloune. La dette vaut plus cher que la voiture, c'est à cause de l'amortissement. Le faux taux de financement, arrêtez de vous faire croire que votre voiture se finance à 0.9 ou 1.9%. Quand tu achètes une voiture neuve, le prix du financement est implicite. Donc, arrête de penser qu'une voiture usagée à 6-7%, c'est de te faire voler sur le financement. La différence, c'est qu'on te donne le vrai prix du financement au lieu de le cacher dans le prix doublé d'une voiture neuve par rapport à une voiture usagée. Et voilà.
Et voilà. Ben merci, monsieur.
Salut.
Bye, bonne journée. Il est 7h20.